d'économie, Georges Kamoudjova.
Le franc congolais dévalue de façon inquiétante cette semaine, plus de 750 contre un dollar. La monnaie nationale aura perdu près de un tiers de sa valeur en trois mois. Cela n'était pas arrivé depuis 2001 et ce n'est pas sans conséquence un reportage que nous propose Nadine Foula. Une grève de 24 heures paralysée lundi les activités sur le lac Kivu. Les armateurs ont eu gain de cause avec la suspension de l'autorité lacustre. Pour comprendre l'influence de ces opérateurs, nous appellerons Michel Tirimoani à Bukavu. Il débute dans le transport routier en 1980. Aujourd'hui, détenteur et patron d'une des grandes compagnies aériennes du pays, Stavros Papaioannou, numéro 1 de Ouabora, sera l'homme économique de la semaine. Bienvenue à tous. D'abord, les principales nouvelles économiques du pays avec Jocelyne Moussaoupondé. La grande nouvelle, bien sûr, c'est la dégringolade du franc congolais observée depuis 72 heures qui mobilise tout le monde, en particulier les banquiers.
Oui, Georges, les opérateurs économiques sont appelés à diriger les devises étrangères vers les banques commerciales. L'appel a été lancé vendredi par l'Association congolaise des banques. Cela aiderait à lutter en particulier contre le manque de liquidité en devises. Une situation qui a occasionné cette semaine une dépréciation accélérée du franc congolais face aux devises étrangères. Selon Michel Osembe, président de l'ACB, tous les regards des banquiers sont tournés vers la Banque centrale pour des solutions durables. Comme mesure, la BCC a augmenté son taux directeur, le faisant passer ainsi de 28 à 40% l'an. En un mois, la monnaie nationale a perdu au moins 15% de sa valeur, si l'on s'en tient à cette première semaine de 2009. Et si les politiques ne changent pas, l'inflation atteindra 120%, alors qu'au mois de décembre, elle n'était qu'à 27%. Un analyste qui parlait à Radio Kapi estime que le FMI peut apporter une bouffée d'oxygène afin de secourir la RDC. L'institution de Bretton Woods peut débloquer au maximum 200 millions de dollars américains comme appui aux réserves de la Banque centrale, avait précisé en décembre dernier Brian Hams, un des responsables du FMI en Afrique.
Et le gouvernement de son côté tentera d'éviter toute dépense hors caisse qui pourrait amplifier la dévaluation du franc.
Les réunions se sont succédées ce week-end, dépenser moins mais surtout augmenter les recettes. Le Premier ministre Adolphe Mouzito demande aux responsables des régies financières de développer à l'intention du gouvernement des stratégies internes afin d'atteindre ou mieux de dépasser les assignations budgétaires fixées par le gouvernement et le Parlement dans le cadre du budget 2009. Il a dit jeudi à l'issue d'une séance de travail qu'il a tenue à l'hôtel du gouvernement. De leur côté, les responsables des régies financières aussi se sont exprimés. Pour le DGA de l'OFIDA, son entreprise attend du gouvernement, la disponibilisation attend dès la rétrocession. Il a ajouté que sur le plan interne, l'OFIDA poursuivra la maîtrise des enlèvements d'urgence pour accroître les recettes et va informatiser les services pour combattre la fraude. La DGRAD, elle, demande que le gouvernement instruise ses différents services pour que des actions à taxation soient faites à temps.
Puisque nous parlons régie financière, le procureur général de la République a décidé d'entendre une douzaine de députés nationaux.
Ce sont ceux accusés d'avoir été corrompus pour minorer la taille des impôts dans le budget 2009. La justice pourra-t-elle demander la levée de l'immunité de ces élus pour les juger ? Jusqu'où ira le procureur ? Le procureur général de la République, Moussa Galoussa Tayondeza, répond à Jeff Ngoy.
L'audition n'implique rien du tout. Le magistrat du parquet a l'opportunité d'apprécier les poursuites. Je peux entendre. Et je dis non, ce qu'on a dit à son sujet, c'est faux. Ça n'est pas établi, c'est clair que le dossier. Bien repris, il fait la démarche pour qu'on lève son immunité afin qu'il soit poursuivi. Comme le cas présent, on nous a saisi. Si à la fin de nos auditions, nous disons X, en tout cas, n'est pas concerné, mais X a effectivement trempé. À ce moment-là, nous sommes l'Assemblée. Ils sont de nouveau l'Assemblée pour demander l'autorisation de traduire le concerné devant la justice du jugement dans le camp présent, le camp présent devant la Cour suprême de justice. À ce moment-là, c'est le vœu de l'immunité. Parce que c'est maintenant la poursuite.
Et en Bujima, les agents de la MIBA ont choisi de manifester jusqu'à ce que le gouvernement réagisse à leurs revendications.
Le sit-in de jeudi dernier a été étouffé par les éléments de la police qui ont été déployés dans la cité minière. Les travailleurs revendiquent notamment la relance des activités de la MIBA. Cela fait plus d'un mois que le géant congolais du diamant est presque à l'arrêt.
Au sud Kivu, des bons résultats agricoles à Walungu.
Au cours de l'année 2008, l'ONG Anti-Bouaki souligne qu'après avoir introduit des nouvelles cultures dans les riz tabis dans ce territoire, la production annuelle atteint plus de 7 tonnes dans la localité de Bourhalé. Il en est de même pour les cultures maraîchères dont la production est évaluée en centaines de tonnes. Le responsable de cette organisation estime que les avancées sont significatives.
Merci beaucoup, Jocelyne Moussaou Pondé, pour toutes ces infos.
Le dossier de la semaine.
Les propriétaires de plus de 25 bateaux naviguant sur le lac Kivu ont décrété en début de semaine une cessation d'activité entre Bukavu et Goma. Ils ont tenté de protester contre les saccages, les mauvais comportements du commissaire lacustre et les taxes illégales dont ils se disent victimes. La grève n'aura duré que 24 heures car les autorités ont annoncé le lendemain la suspension du commissaire maritime désavoué par l'association des armateurs du lac Kivu à Salak en sigle. Après la grève, les armateurs disent poursuivre les revendications portant sur les tracasseries au port de Bukavu. Nous allons essayer de comprendre l'influence des armateurs du Sud Kivu sur l'économie de leur province avec Michel Chirimwami. Michel, vous avez suivi cette courte grève, mais dites-nous d'abord, les armateurs sont-ils influents dans votre ville?
Bien sûr, dans le secteur économique, Georges. Pour la grève de ce lundi sur le lac Kivu, 25 bateaux, 33 barges, 8 canons rapides et une quarantaine de bottes et embarcations naviguant sur le lac étaient concernés. L'impact du transport lacustre sur l'économie de la région est indéniable. L'exemple de la société Le Maille Fer qui détient 3 bateaux dont Miss Rafiki et qui transporte à elle seule environ 1700 tonnes de vivres et biens de première nécessité par mois. Écoutons à ce sujet un représentant de cette société, M. Taï Wanga.
De Goma Bukavu. Vous voyez, nous n'avons pas de route. Il suffit seulement un bateau tombe en panne, ne navigue pas. Pendant que les autres bateaux font des rotations régulières. Ah, là, vous voyez déjà, ça crée un engouement de, au point que le bateau risque de chavirer. Alors, c'est pour vous dire que la présence de bateaux sur le lac Kivu, en tout cas, aide beaucoup les passagers. Sans les bateaux, en tout cas, c'est le pire.
On a écouté le responsable de Taï Wanga. Que peut-on penser d'un non-mouvement sur le lac Kivu, du moins si c'en était encore le cas après cette grève?
Les conséquences d'une telle décision sont incalculables, Georges. Par exemple, Bukavu et Goma connaissent un trafic commercial très intense. Les vivres sont pour la plupart amenés de Goma vers Bukavu. Les bateaux font la liaison avec l'aéroport de Goma pour les voyageurs en destination de Kinshasa et autres villes du pays. Il y a lieu de voir la ville de Bukavu et même la partie est dans le nord Katanga paralysée en peu de jours avec une telle grève. C'est ce que nous dit d'ailleurs Oswald de Swedi, représentant du bateau MV Chafi.
La population de Bukavu, le secteur Nord-Chaba, sud de Kivu, dépend de bateaux qui fait Bukavu-Goma. Parce que c'est la seule liaison qui nous reste aujourd'hui dans le secteur Est. Et si on pouvait, une fois arrêté la navigation, sur le plan alimentation, sur le plan commerce, sur le plan de voyager dans les grandes villes à Kinshasa, par exemple, pour les avions de Goma, pour aller à Kampala, c'est toujours la même route, pour aller à Kigali, on passe toujours par le lac. Parce que c'est le seul moyen de voyager. Qui reste sur ce Kivu. Le grenier de ce Kivu, c'est Goma. C'est Goma, Masisi, Rutshuru et consorts. Et l'aliment qui vient de Goma, qui vient de Rutshuru, ça va à Mwenga. L'aliment qui vient d'Idjoué, ça va aussi à Mwenga, Walungu, et Uvira, par exemple, les Makayabo, et qui va jusqu'à Kalemie, et de là vers Mbujimayi.
Espérons alors que les armateurs ne vont plus gréver un de ces jours, Michel Chirimwami.
Oui, les autorités ont répondu à la demande des armateurs en rappelant le commissaire lacustre à la division pour le remplacer par un autre. Les armateurs s'en félicitent, mais disent que les revendications pourront se poursuivre pour les autres doléances. Ils se plaignent également d'une multiplicité de taxes et de services étatiques dont ils sont victimes et certains ne se justifient pas du tout. le cas d'une taxe dénommée prestation particulière où les armateurs sont obligés de payer 17,8 dollars américains par bateau, barge ou canot rapide et 5 dollars pour les bateaux qui partent pour Ijuy. De l'argent qui n'entre pas au trésor public, se plaignent ces armateurs. Écoutez Prudent Pama, secrétaire général de l'association des armateurs sur le lac Kivu, à son attention.
L'estimation, c'est que chaque bâton avant de partir doit donner les 17,5 $ comme prestation particulière. Fois 24 bâtons qui sont sur les lacs, fois 52 semaines, ça donnait à peu près plus de 680 000 dollars par an. On a fait des calculs, on a remarqué que cet argent n'allait nulle part. Ce n'est pas orienté dans une caisse de l'État. C'est orienté dans des comptes privés à la coopérative et nous pensons que c'était un grand manque à gagner à l'État.
Et à propos de multiplicité des services qui tracassent et les voyageurs et vous-même au port, on vous a promis qu'on va essayer d'y réfléchir, mais comment est-ce que la situation se présente jusqu'à présent?
Nous savons qu'au port, il ne peut y avoir que 4 services. Les autres ne doivent pas apparaître. Il avait dénombré 19 services, dont les commissariats la KIS, l'ANR, la DGM, l'OCC, l'OCIDA, la SONECA, les commerces extérieurs. Et nous, on sait qu'il y avait 23 services. Il y a beaucoup de militaires au port et armés.
Michel, que disent les autorités du lac par rapport aux accusations avancées par les armateurs tels qu'on vient de les suivre avec Prudent Pama?
Oui, le commissaire Lacus de Bukavu, concerné avant sa suspension, a rappelé que le bras de fer avec les armateurs est parti du moment où il voulait vérifier les conditions d'habitabilité des bateaux par l'équipage. Il dit avoir voulu exiger aux armateurs de bien prendre en charge les membres d'équipage de chaque bateau qui navigue sur le lac Kivu. C'est selon lui, après les constats des conditions difficiles dans lesquelles les armateurs font travailler leur personnel. Le commissaire maritime de la CUS dénonce le fait que les armateurs se sont opposés à l'application du décret du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti au profit de ce personnel. Autre grief, les armateurs auraient tendance à faire de fausses déclarations sur la puissance motrice de leurs bateaux pour échapper aux taxes. Voici la réaction d'ailleurs des armateurs à travers leur porte-parole, M. Prudent Pama.
Avant qu'un bateau navigue sur le lac, c'est lui qui fait les contrôles. Aucun document ne peut être délivré sans que ça passe par sa main. Le certificat de navigabilité, avant d'être livré à l'armateur, ça passe dans sa main et lui-même il l'expédie à Kinshasa. Quand ça revient de Kinshasa, ça passe dans sa main et lui-même appelle l'armateur et lui remet le certificat de navigabilité.
Ok, Michel Sirimoni, on a compris les avis des uns et des autres sur le problème des armateurs au sud Kivu et leur influence. Merci beaucoup pour cet éclairage. Nous ne posons pas encore d'encre dans cette émission Écho d'économie. Nous entamons sa seconde partie en vous souhaitant une bonne journée à Bukavu.
Merci beaucoup, Georges.
Les infos économiques en Afrique et dans le monde.
Les États-Unis doivent agir vite. C'est Barack Obama qui mentionnait cette urgence jeudi en publiant son plan pour la relance de l'économie. Le président américain élu, qui entrera en fonction le 20 janvier prochain, promet de réduire les impôts pour ses concitoyens et de créer 3 millions d'emplois d'ici 5 ans. Barack Obama a accusé ouvertement Wall Street et les politiciens de Washington d'être à la base de la crise financière et économique qui secoue le monde. Il appelle même à une révolution culturelle. En Chine, c'est l'économie qui est au ralenti. Le taux de croissance, qui planait au-dessus de 10% ces 5 dernières années, est en chute libre. Il était de 9% en 2008 et il ne sera que de 7 ou 8% cette année. Une situation qui est due à la baisse des consommations suite à la crise financière internationale. Les Chinois adopteront sûrement la stratégie occidentale qui vise à injecter de l'argent dans certaines banques. Mais l'autre stratégie, avec fruit à long terme, c'est la Chine qui veut remplacer le dollar par sa monnaie, le yuan, dans le commerce international. Une intention publiée cette semaine par sa banque centrale. Elle mettra en place en 2009 un projet pilote visant à réaliser cet objectif. De toute façon, comme on le voit, le débat sur la façon de combattre la crise n'est pas clos en Occident ou en Asie. Faut-il diriger le sauvetage vers les investissements ou la consommation? des options qui risquent d'avoir des conséquences politiques pour certains gouvernements. On le voit en Allemagne, déjà avec le camp de la chancelière Angela Merkel, fortement divisé sur la question. Un petit regard sur le marché londonien des matières premières. L'étain qui a commencé la semaine à 12 500, la termine à 11 200 la tonne. Le cuivre, lui, a tenté une montée mercredi en se négociant à 3 400, mais termine avec 300 dollars de moins. Même comportement pour le pétrole qui a enregistré une baisse après avoir atteint le cours de 50 dollars mardi. Les bruts et dans les environs de 40 dollars le baril.
Économie, matières premières.
L'or résiste aux effets de la crise financière, sa valeur n'a chuté que de 15%. Alors, la RDC qui possède des réserves importantes d'or peut exploiter cette voie. Depuis un mois, des creusers de Kambove dans le Katanga ont tourné le dos à l'hétérogénite. Ils ont découvert un filon d'or à côté d'une ancienne carrière de la Gécamine appelée la Verrie. En Ituri, en même temps, on tente de convaincre les exportateurs d'or de passer par l'OFIDA, ce qui ne faisait pas avant, en avançant des conditions sécuritaire. Et le CEC, organe chargé de certifier les matières précieuses, lui aussi va en guerre contre les marchés mafieux de l'or du Congo-Kinshasa, l'or qui sort clandestinement à partir des pays limitrophes. Askin Zibia Taïro pour la rubrique matières premières.
Selon la BGDC et EEC, plusieurs propriétaires de comptoirs de l'or préfèrent s'implanter dans le pays voisin de la RDC à l'est où coûte à 10 000 dollars les frais d'ouvrir ces comptoirs. Un prix moins cher contre 75 000 dollars qu'exigeait la RDC. Le CEC a baissé ses frais à 7 500 dollars pour encourager les exploitants internationaux et nationaux d'ouvrir leurs comptoirs sur le sol congolais. Depuis la baisse de ces prix il y a un mois, le CEC estime avoir reçu une demande de 10 comptoirs internationaux qui désirent s'installer officiellement dans le pays. Dans la nouvelle stratégie des CEC, l'État congolais pourra bénéficier de 3% des recettes maximisées. Les creuseurs pourront payer une taxe de 10 dollars pour être admis à l'exploitation de l'or. Les acheteurs devront être munis d'une carte d'exploitation qui coûte 250 dollars. Les prix par gramme de l'or évoluent en RDC par rapport au prix sur le marché international. Cette semaine, ce prix varie entre 25 à 27 dollars le gramme. La RDC souffre de trafic fraudulé de l'or, dont la plus forte concentration se trouve dans la province orientale, en Ituri. Les CEC s'étonnent que l'Ouganda, le Rwanda et Burundi, qui ne possèdent aucune réserve en or, exporte de 10 à 20 tonnes d'or par an, alors que la RDC qui dispose des jugements importants d'or déclare difficilement 300 kilos par an.
Le reportage de la semaine.
Le reportage de la semaine, c'est bien sûr le franc congolais qui vient d'enregistrer sa plus grande débâcle depuis 5 ans, près de 30% de dépréciation en 3 mois. Selon certains analystes, le taux d'échange sera un agent perturbateur du prix de carburant en 2009. Déjà, il vient de briser l'impact positif des trois dernières baisses décidées par le ministère de l'économie. Mais la chute accélérée du franc congolais se répercute sur la structure des prix des biens de première nécessité. Le franc et sa dévaluation, c'est un reportage de Nadine Foula.
Cette ambiance du grand marché de Kinshasa est similaire à celle de la place de Château, les Wall Street de Kinshasa. Les changeurs de monnaie recherchent les dollars en tout sens. En début de semaine, les dollars se négociaient entre 600 et 620 francs congolais. Mercredi, les taux est parti de 660 le matin à 690 le soir. Descente aux enfers accélérées, jeudi, les tableaux affichent 710 le matin et le soir 740. Et vendredi matin, l'inquiétude des autres, la spéculation et la panique s'installent.
Dollar est comme un matin,
La chute des exportations, la guerre à l'Est, la chute des réserves de la Banque centrale du Congo, les dérapages budgétaires dus à la guerre à l'Est, toutes les conditions sont réunies pour insécuriser les francs congolais. Mais la rue, y compris certains familles, n'y comprennent rien. Seul fait visible, le dollar est rare. Un banquier confie même qu'il est difficile en ce moment d'obtenir 500 000 dollars pour un importateur de Kinshasa. Certains banquiers jugent cette dépréciation du franc des situations inquiètes. Les effets se répandent déjà sur le prix des produits de première nécessité. Les prix se modifient au fil des heures. Par exemple, un sachet de sucre se vend à 4 500 francs contre 3 000 francs il y a 3 jours. Une maison des haricots à 800 francs congolais contre 750. Et ces vendeuses ont trouvé comme astuce de ne pas bien remplir leurs mesures pour ne pas perdre. Par ailleurs, certains magasins ont fermé car ils ne savent à quel prix vendre leurs articles. Dans ceux qui sont ouverts, chacun applique un taux qui lui est favorable. Dans les vitrines, certains articles manquent d'étiquettes qui servent à indiquer les prix. Les consommateurs trouvés au grand marché sont pleins.
Et là, on s'en met à 20 000, on s'en met à 80 000, 60 000. Quel genre de vie? Et là, on va se faire la solution. Pas qu'à une tradition. Il s'en a fait une idée, tu retiens qu'à 9 000. Circulation bon ou exacte, dollar est comme il a 80, l'autre est comme un temps. Faut donc que le gouvernement ou exacte.
Question, où est le gouvernement? Le premier ministre, le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale se sont réunis jeudi. Parmi les mesures annoncées, l'augmentation du taux directeur de la Banque centrale du Congo qui passe de 28 à 40% l'an. Une mesure qui aurait comme conséquence de rester le plus grand nombre de francs sur le marché. Reste à savoir si les différentes mesures abaisseront la tension dès la semaine prochaine.
Vos avis et suggestions nous intéressent. Écrivez-nous à echo@radiokapi.net.
L'homme économique de la semaine est Stavros Papayoannou, initiateur et patron de la compagnie Erabora Airways. Il est aujourd'hui le vétéran des aviateurs privés congolais. Congolais, oui, parce qu'il est né en RDC, il est de nationalité congolaise en plus, mais d'origine grecque. Nous allons comprendre sa marche d'entrepreneur, Stavros Papayoannou. Au début, dans les années 80, vous n'étiez qu'un transporteur routier à Likasi. C'est dans cette ville du Katanga, d'ailleurs, qu'il faut chercher les origines de Erabora.
Oui, disons des transports routiers. Nous avons commencé avec des camions à Likasi, effectivement, surtout pour toujours pour la Gécamine. Hein. Et j'ai eu un besoin d'avoir un transport aérien pour pouvoir aller dans certains chantiers qui se trouvaient à l'OMA et tout ça. Ben, on a pris goût à l'aviation. Et l'aviation s'est développée à un certain moment un peu plus rapidement que le transport routier. Et je suis allé au Canada pour aller faire mes licences, pour revenir à ce moment-là créer la compagnie Javert.
Nous sommes déjà à la fin des années 80.
Nous sommes à la fin des années 80, oui. Hein, j'ai travaillé pendant un an, deux ans, sans véritable salaire. Hein. C'était uniquement pour pouvoir promouvoir la société, c'était par autofinancement et tout ça. Il ne faut pas croire que dans l'aviation, il y avait beaucoup d'argent à l'époque. Hein. C'est vraiment survivre au début.
Alors, survivre, et là, vous parvenez à joindre quelques villes du Katanga?
Bon, disons qu'au début, quand nous avons commencé, c'était plutôt du taxi aérien. Et par après, donc en 89, nous sommes partis aux Philippines où nous avons acheté deux HS-748, c'était dans le genre de Fokker, et où nous avons commencé à faire des vols réguliers maintenant entre Kolwezi et Lubumbashi surtout, et accessoirement Kalemi, Mbujima et Lubumbashi.
Et puis l'aventure Chabert passe, vous essayez d'étendre sur d'autres villes de la RDC.
C'est ça, nous avons eu un contrat très important lorsqu'il y avait eu les fameux problèmes avec les étudiants de Lubumbashi. Sur demande du président, nous avions évacué tous les étudiants dans leur ville souhaitée. Certains c'était pour Kinshasa, d'autres c'était pour Kalemi, Goma et tout ça. Ça nous avait, disons, donné un solide ballon d'oxygène qui nous a permis d'acheter deux avions jets. Et avec ça, nous avons commencé maintenant la ligne de Kinshasa.
Et la Chabert garde toujours son nom de Chabert.
Oui, il avait gardé le nom de Chabert. Nous avons par après acheté des autres Boeing 727. Ensuite, nous avons acheté des 707. On a pris l'extension. Nous avons pris un DC-10. Malheureusement, bon, sur une mésentente des partenaires. nous avons dû mettre fin à cette aventure-là. Et bon, moi, j'ai continué dans l'aviation avec City Express au début, qui est devenu Congo Airlines. Et puis par après, nous avons créé une nouvelle société qui s'appelait Wabora.
Voilà donc le parcours de Wabora. Vous nous parliez de partenaires, là. Vous étiez quand même obligé d'avoir d'autres fonds et vous avez eu des associés.
Oui, bien sûr. Hein. Bon, les associés sont nécessaires hein, pour pouvoir faire des bras de levier. Sinon, vous resterez toujours une petite maison chétive. Hein.
En 2008, vous avez connu un crash à Goma.
Non, oui.
C'était le coup le plus dur.
Incontestablement, c'est le plus dur. Mais qui, en principe, aurait dû se limiter à des dégâts matériels sans une seule victime. Les victimes qui ont été là, c'était parce qu'il y a eu un défaut d'assistance au sol. Le fait simplement de mettre un cordon de sécurité autour de l'accident pour empêcher les gens d'aller sur place aurait certainement évité une trentaine de morts.
Alors aujourd'hui, Wabora tente d'aller loin avec des partenariats comme celui de SN Bruxelles pour créer une nouvelle compagnie RDC. Wabora tente aussi de se tourner vers l'Asie. Est-ce que 2009, ce sera une année de réalisation de ces projets?
C'est vrai que nous essayons quand même de nous étendre, mais ce n'est pas évident parce que, bon, je crois bien que le pays entier a été frappé par une décision européenne et a mis le pays entier sur la liste noire, ce qui aujourd'hui est un véritable frein à toute expansion à l'extérieur du pays. Si aujourd'hui la compagnie RDC n'a pas encore démarré, c'est uniquement à cause de ça, c'est parce que les sanctions qui ont été frappées contre le pays nous empêche de pouvoir faire une extension à l'extérieur, à cause des assurances, à cause des conséquences qui s'en suivent. Hein. Je vois difficilement comment une société comme Brussels Airlines et Lufthansa aujourd'hui peuvent accepter d'avoir une filiale qui est d'assister.
Vous pouvez aussi peut-être dire qu'est-ce qui est au cœur de votre esprit managérial?
Ce qui reste dans le management de quelqu'un, c'est le professionnalisme. Vous pouvez faire du bruit par du matu vu, par les signes extérieurs, etc. Mais ça ne dure jamais. Si vous voulez perdurer dans quelque chose, il faut le faire avec beaucoup de professionnalisme. Parce que c'est la seule chose qui va vous faire respecter vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la profession, vis-à-vis des concurrents, c'est votre professionnalisme.
Stavros Papayoano, patron de Wabora, merci beaucoup de nous avoir parlé dans Écho d'économie. Eh ben, pour ceux qui voudront réécouter cette émission, c'est sur www.radioocapi.net. N'hésitez pas non plus à nous écrire à eco@radioocapi.net. Émission réalisée par Jocelyne Moussaou avec accent Sidia Taïro. Merci beaucoup à tous et bon week-end.